franceinter.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec Philippe Duclos et Clément Vuillet à la technique et assisté de Stéphane Combe. Cette semaine, c'est Thomas Jost qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Le tableau Les pommes de Cézanne, peint en 1889-1890, s'est arraché mardi pour près de 32 millions d'euros aux enchères à New York. Alors certes, me direz-vous, ça fait cher le kilo de pommes, même bio, quoique, vu le nombre de traitements phytosanitaires qu'elles subissent, ça couvre les coûts. Et ces traitements sont là aujourd'hui pour maintenir le fruit de la tentation à portée du panier de la ménagère. Alors c'est l'occasion de rappeler qu'en cette période de floraison intense dans les campagnes, les pollinisateurs ainsi que ceux qui s'en nourrissent, insectes, oiseaux et autres animaux, apprécient peu de voir circuler à travers les champs tracteurs, épandeurs, toutes vannes ouvertes, pulvériser consciencieusement et en dépit de l'interdiction de cette pratique, insecticides et fongicides sur les jolies fleurs de colza. Car après un hiver interminable, les insectes et en particulier les abeilles se précipitent pour butiner dans ces champs et se refaire une santé. Et oui, mais mauvaise pioche, les mouches à miel, ah là là, ces belles fleurs jaunes ont quelque chose de menaçant. Vous savez, un peu comme dans les films où la poudre parle sans arrêt, quoi, une sorte de remake de Colza Nostra. Oui, je n'ai pas pu m'empêcher. Pourtant, s'il y a une équation séduisante qui a toujours été mal expliquée, c'est bien la suivante. Moins de frais d'achat de phytosanitaires, plus de rendement agricole grâce aux pollinisateurs ainsi épargnés, moins de pépins de santé, de lymphome pour tout le monde, les agriculteurs en premier, égale plus de bénéfices pour la collectivité. Mais pas forcément pour la coopérative agricole qui règne en maître. On ne va quand même pas en plus plomber notre PIB. Alors du reste, dans un registre voisin, s'il y a bien des gens qui veillent au grain, ce sont les vigiles du magasin de la Défense, dont le nom commence par Casse et doit finir par Rama. Ceux-ci ont en effet montré récemment que ce ne sont pas de pacifiques citoyens engagés qui vont empêcher leur enseigne de vendre de l'herbicide. Oui, oui, les militants du collectif Roundup Non Merci ont appris cela à leurs dépens. Que sensibiliser les jardiniers amateurs au risque que représente le glyphosate, donc ce produit toxique, n'est pas sans risque. Les vigiles du magasin, peu enclins à lire les bucoliques de Virgile, n'ont pas lésiné sur les moyens. Violence physique, destruction de caméras, d'un journaliste qui accompagnait le collectif, etc. Alors oui, les pommes de Cézanne étaient sans doute bio sans le savoir, enrichies au pied de l'arbre avec ce crottin de cheval qui plaît tant aux moineaux, vivant de production locale et variée qui ne se parfumait pas encore aux organochlorés, aux néonicotinoïdes, des pommes que l'on pouvait croquer à belles dents sans même enlever la peau dorée, piquetée de jolies taches, vous savez, rouge sang. Alors maintenant, à nous, citoyens, localement, de refabriquer de petits jardins d'Hespérides remplis de pommes d'or. Au menu de cette émission, une véritable ronde d'initiatives qui va nous emmener un petit peu partout en France et dans le monde et qui donne envie d'avancer, de faire, de réfléchir à un monde un peu différent. Avec des exemples, comment lutter contre le gaspillage alimentaire avec les disco-soupes organisés par des jeunes à Nantes. Un volet économique avec une entreprise engagée dans la chimie verte. Un volet international, comment se nourrir sur les toits de Singapour. Un volet local, pourquoi planter des légumes en ville. Un volet nature, tenez.
À 20h16, donc la nuit est tombée, ça nous permet d'avoir les garanties, les chances maximales de voir une tortue, puisqu'elles sortent quand même de l'eau, majoritairement, à la nuit tombée. Donc là, on est de retour sur la plage de Montjoly, donc une plage très urbaine, mais qui se transforme à la faveur de la nuit en site de ponte d'importance internationale pour les tortues marines.
Et oui, c'est le moment où les tortulules sont en train de pondre, donc reportage en Guyane sur ces tortues et aussi comment, on va dire, les aider parce que parfois elles ont quelques légers problèmes. Et on va commencer en mettant un peu de vin dans notre eau avec Frédéric Danhé. Vous êtes auteur, journaliste environnemental, vous intervenez dans cette émission, vous avez écrit une histoire brève du climat et dans l'actualité, en plus de la confirmation, on va dire, rapide du réchauffement ou du dérèglement climatique, si vous préférez, Rémi Barou du Monde signait un article cette semaine sur l'adaptation de la viticulture à ce réchauffement. Alors bonjour à vous Frédéric Danhé. La vigne, en fait, pour des raisons culturelles et économiques, a toujours été suivie de près comme étant un marqueur du réchauffement.
Bonjour Denis. Oui, la vigne, c'est un marqueur. C'est un des principaux marqueurs parce que la vigne est la culture, une des cultures les plus suivies depuis qu'on fait de l'agriculture, parce que c'est une culture à haute valeur ajoutée, parce que tout le monde boit et aime boire. Et donc, il faut quand même savoir qu'un Emmanuel Leroy-Ladurie qui a fondé l'histoire du climat, il l'a fondé en grande partie sur l'observation des dates de vendange, du prix du vin, etc., etc. Donc la vigne et le vin, c'est des indicateurs extraordinairement performants et pertinents sur le réchauffement climatique. Et c'est en observant le vin, la vigne, que l'on se rend compte qu'il y a réellement un réchauffement climatique et une accélération de ce réchauffement climatique.
Alors, lorsque l'on est en France avec, on va dire, 4 à 5 % de surface agricole utile pour la viticulture, mais qui représente beaucoup plus que ça, surtout d'un point de vue exportation, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui d'un point de vue phénologique et autre ?
Ce qu'on constate sur la phénologie, c'est-à-dire le cycle de vie de la vigne, c'est que tout est décalé, tout est plus précoce. La vigne fait ses bourgeons plus tôt, les bourgeons font des fleurs plus tôt, les fleurs font des raisins plus tôt et on récolte plus tôt. En moyenne, depuis 50 ans, on récolte le raisin et on presse le raisin entre 15 jours, 3 semaines, voire un mois plus tôt qu'il y a un demi-siècle. Et parfois, sur certains vignobles, notamment en Champagne, c'est sur 20 à 30 ans que cette précocité s'est établie. En Champagne, on récolte les jus 3 semaines plus tôt qu'avant. Ce qu'on constate aussi, c'est comme on récolte plus tôt, à des périodes plus chaudes, eh bien on a la composition du jus de raisin qui est modifiée, c'est-à-dire les équilibres entre, j'employais des termes savants, les aldéhydes, les alcools, les sucres, les anthocyanes, c'est cet équilibre entre ces différentes molécules qui fondent justement les AOC, ces équilibres sont modifiés, donc on a des degrés d'alcool qui augmentent ou des degrés de sucre qui augmentent. Et derrière tout ça, c'est la typicité, la spécificité des vins qui est modifiée, d'autant plus modifiée qu'on est dans le sud de la France où le changement de température est le plus important.
Si on regarde par exemple le Châteauneuf du Pape, qui est quand même un vin extrêmement solide, c'était très intéressant de voir le titrage qu'il a eu il n'y a pas si longtemps.
Et bien aujourd'hui, on en est à 14,5 degrés, voire 14,7 degrés. Alors on est presque à une boisson alcoolisée que boit James Bond.
Ah oui.
Le Riesling, par exemple, en moins de 20 ans, a pris 1,5 degré. Ouais. De façon générale, le degré, la titrisation du vin augmente. Et on constate ça partout dans le monde, et en particulier dans les vignobles des pays, des régions chaudes.
J'ai un tire-bouchon sur moi, malheureusement. C'est un tire-bouchon, je ne dirais pas de parade, mais ça n'est pas un tire-bouchon qui va très très loin. Quand je l'oublie, je suis malheureux, il me manque quelque chose. Pour moi, c'est pire que quand j'oublie mes clés ou mon mouchoir un jour que je suis en rue, mais un mouchoir, je me démerde toujours.
Avec les doigts, c'est plus dur.
Une bouteille avec les doigts.
Que peut-on dire maintenant sur l'adaptation des viticulteurs ? Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce que ce seront les cépages ? Est-ce qu'un jour, donc, on va irriguer aussi certaines vignes ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ?
Vous l'avez dit, oui, ce sera les deux, mais adapter les cépages, ce sera sans doute la dernière solution. La façon de conduire la vigne et la façon de conduire le vin vont être différentes. Alors, les viticulteurs s'adaptent déjà, même si c'est un milieu fondamentalement conservateur, parce que le vin, conservateur dans le bon sens du terme, parce que le vin c'est un patrimoine, le vin c'est un cahier des charges qui est très précis, qui est très strict, c'est difficile d'en sortir. Ça va être quoi ? Sur la vigne par exemple, c'est éviter d'effeuiller. C'est-à-dire laisser les feuilles
qui vont faire de l'ombre,
pour que le pied pompe moins d'eau. C'est créer des bandes enherbées, laisser l'herbe pousser sans doute dans les rangs entre les vignes. Pourquoi ? C'est pour limiter au maximum l'évaporation de l'eau, pour que l'eau reste dans le sol. C'est un certain nombre de choses comme ça. Et puis, pour le vin, pour la conduite du vin, c'est récolter sans doute la nuit. On va y arriver, refroidir le vin. Refroidir les jus pour que les équilibres organoleptiques soient respectés. Puis ça peut être, vous l'avez dit, ça peut être l'arrosage. Alors c'est pas l'arrosage comme on arrose le maïs, non. C'est l'arrosage goutte à goutte comme font les Néo-Zélandais, les Chiliens, les Australiens et en particulier les Californiens. C'est l'arrosage goutte à goutte pour éviter que le stress hydrique soit important. Alors il y a une chose à savoir, c'est que les vins avec le réchauffement climatique, donc un des critères qui montre bien qu'il y a réchauffement climatique, c'est qu'on ne cesse d'avoir d'excellentes années de vin. Pourquoi ? Parce que le réchauffement climatique, c'est un peu d'eau disponible en moins. Et les vignes aiment beaucoup, mais comme les arbres fruitiers, aiment beaucoup avoir un peu moins d'eau. Le stress hydrique est important, ça concentre un peu tout, ça fait des jus meilleurs, jusqu'à une certaine limite. Et pour éviter que cette limite ne soit atteinte, eh bien, il faudra peut-être arroser juste ce qu'il faut pour qu'on soit à cette limite du stress hydrique. Enfin, en tout cas, pour conclure, le réchauffement climatique, ce n'est pas du tout une catastrophe. On le voit bien, il a largement favorisé l'amélioration des vins dans le Languedoc-Roussillon et dans le nord de la vallée du Rhône. Donc, ce n'est pas une catastrophe.
On va juste rappeler une chose, c'est que au XIIIe siècle, si nous étions en Pologne, eh bien, on exportait du vin. Et d'autres pays, donc nordiques aussi, exportaient du vin.
Mais le vin en France, alors, a été introduit, certes, par les Romains, oui, notamment dans le Bordelais. Mais les régions qui produisaient du vin, il faut savoir qu'au XIIIe siècle, on buvait beaucoup de vin parce que c'était plus sain que l'eau qui, en gros, véhiculait toutes les maladies possibles. L'eau était sale. Le vin, et le vin était en plus épicé, voire on lui mettait du plomb pour lui donner un peu de goût, le vin était là, une boisson commune. Bon. Et le vin, on le produisait où ? On le produisait en France, c'était surtout en Île-de-France, dans la vallée de la Loire, mais beaucoup en Île-de-France, dans le nord de la France, dans les ex-Pays-Bas qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, la zone flamande, en Pologne, dans le sud de la Suède et dans le sud de l'Angleterre, parce que le climat est extrêmement favorable. Et comme par hasard, le climat d'aujourd'hui redevenant favorable, eh bien on a des pays, comme le sud de l'Angleterre, qui prétendent refaire du vin. D'ailleurs, ça fait pousser des cris de frayeur au syndicat interprofessionnel des vins de Champagne, qui refuse l'idée que...
Une appellation Champagne puisse arriver donc au sud de l'Angleterre.
Ben, l'appellation, ils ne l'auront jamais, parce que de toute façon, c'est fixé. C'est comme l'appellation Camembert, ça restera en Normandie. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout impossible que dans le sud-est de l'Angleterre, on puisse faire du champagne, parce que le terroir s'y prête. Mais quand même pas oublier une chose, c'est que pour faire du vin, un terroir, c'est quoi ? C'est un dialogue permanent entre un climat, une quantité d'eau, un sol, un cépage et une pratique, donc une culture. Donc pour faire du vin, du Cabernet Sauvignon, pour en mettre partout.
Hein, mais il faut le savoir-faire.
Mais il faut le savoir-faire. Et le savoir-faire du Bordelais, eh ben il n'est pas transposé en même temps qu'on transpose les cépages typiques du Bordelais. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence encore sur le champagne de la région Champagne-Ardenne. Néanmoins, on pourra faire un semblant de champagne de qualité, sans doute, dans le sud-est de l'Angleterre dans les années qui viennent.
Eh bien, merci Frédéric Danhé. Je ne suis pas sûr que la semaine prochaine, nous ferons camembert et réchauffement climatique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans quelques instants, ça va être Initiative Jeunesse. Je vais vous emmener à Nantes pour une disco-soupe. Et puis la naissance d'une start-up qui s'appelle Zéro Gâchis, qui lutte contre le gaspillage alimentaire.
Tu vali patufa non de plaza, siamo partiti a rincamare l'ustalo. E fumare il pebun le estrasa, l'avveni vulega su fanao. Vali vulen a ovvi la macina, l'ubaretti ruisen del pistun. E le oche se scaffe la riba, marcia fuor che siamo più denistù. Di la grande mescla di lo du mondo, menare la nostra sao. Allora lì si anche la musica suona, lei sa navega la nao. La grande canzone della planeta vuole impuntare destra a mo' come un tiranio che già mai sa resto vesi il talento e lei può. Sverai che siamo più del fuseio, navega l'us fa cantare l'usan. Se sverai che la dea soveio, ora fa pace me l'usean. Dai e lei se bucan della vita, che comence la buona sazun. Se sverai che la de meravio, pensai che la sigara resum. Di la grande mescla di lo du mondo, menare la nostra sao. Allora lì si anche la musica suona, lei sa navega la nao. La grande canzone della planeta vuole impuntare destra a mo' un po' di ragno che già mai sa che sto vesi talento e lei può. La vita, le notte che la voglia carga, alla baia le cavini tira, le notte che le spera guarda, e marca che lu passa se scranca, la venta bagna dei nostri blu, e marca che lu presenza ranca, per si trova dei nuveri flu, di la grande mescla di rodo mondo, menale la nostra sao, a goli si anche la musica suona, lei sa navega la nao.
Y la gran oca al sur de la planeta vuole imputar este amor. Como chilaño que chama y sa gesto, visita en tu elipo. Visita en tu elipo. Visita en tu elipo. Visitaré, visitaré, visitaré en tu elipo.
Choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, c'était Moussuté Embarcat. C'est des gens un peu engagés, là aussi, du point de vue environnemental. On va rencontrer d'autres. On va partir du côté de Nantes pour une disco-soupe qui est inspirée du Schnippel Disco. Je me lance. Schnippel, ça veut dire éplucher en allemand, pardonnez-moi la prononciation. Donc éplucher et manger des légumes en musique pour éviter le gaspillage. Donc ça s'appelle une disco-soupe. 13 villes françaises ont adopté l'idée. Et notre reporter, Édouard Marier, mais il a assisté à cette disco-soupe il y a quelques temps. Il a rencontré Maud Frachon, 30 ans, qui a fondé Disco-soupe à Nantes.
Alors j'ai épluché des légumes, des fruits pour les salades. Et là du coup je goûte la salade de légumes, j'ai goûté la soupe.
Alors qu'est-ce que ça donne ?
Il y a du goût et voilà, c'est sympa.
Pourtant c'est des légumes qui n'étaient pas, si j'ai bien compris, hein, c'est des légumes qui devaient sortir du marché, qui ne devaient pas être vendus.
À cause de leur forme qui n'était pas conforme ou qui ne répondait pas au top modèle de la forme du légume. Mais le goût y est, donc voilà, on ne sent pas la différence une fois que c'est coupé en fait.
Moi par exemple, là j'entends parler d'une disco soupe, comment ça se passe pour moi ?
Alors, ça se passe pour toi qui arrive et pour participer à une disco soupe, ça se passe que tu vas avoir un espèce de stand, des tables avec plein de légumes, plein de fruits, des économes à disposition, des planches à découper, des couteaux, de quoi cuisiner, enfin de quoi cuire quelque chose. Et l'idée, c'est que tout le monde se mette autour de cette grande table et prenne un couteau et se mette à éplucher. Et tout le monde discute en même temps. Toi, tu fais quoi? Tu viens d'où? Il y a de la musique, les gens dansent un peu. Et voilà, et on prépare au fur et à mesure de tout ça, on prépare des salades. Alors parfois, c'est des associations de fruits et de légumes complètement bizarres que tu n'aurais pas forcément l'idée de faire chez toi. Mais là, on fait avec ce qu'on trouve en fait. Et par définition, le gaspillage alimentaire n'étant pas quelque chose de prévisible, on ne sait quasiment pas le jour même ce qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, les gens se disent, tu crois qu'on met vraiment de la pomme avec les radis? Bah oui, on va tester et finalement, ça se passe bien. Et les gens goûtent et... tout le monde fait connaissance et tout le monde se dit mais c'est quand même bizarre que toute cette nourriture parte à la poubelle. C'est quoi le problème avec cette carotte? Et voilà, et les gens prennent conscience du truc en fait.
Où est-ce que vous les trouvez ces légumes et ces fruits?
Alors on a plusieurs points de récolte. On va soit chez les producteurs maraîchers directement. Donc on les contacte auparavant, on voit ce qu'ils ont de récupérable, ils nous mettent ça de côté. Ou alors on va aux mines aussi, on va récupérer ce qu'il y a dans les poubelles du mine, sachant que ce qu'il y a dans les poubelles du mine est parfois tout à fait consommable, mais pas vendable, parce qu'il y a une petite tache, parce qu'il y a une éraflure qui fait que le produit va s'abîmer très rapidement. Nous on récupère tout ça. On va aussi chez les primeurs, là ce soir on a récupéré quelque chose d'un Intermarché. 90% des produits qu'on récupère ont été jetés pour des raisons purement esthétiques. Une carotte tordue, une patate trop petite pour rentrer dans les calibrages normalisés, une salade avec des feuilles un petit peu jaunies sur les bords. Ce gaspillage-là, on le paye. Parce que, par exemple, ce que jettent les supermarchés, le prix de leurs pertes est répercuté sur le prix des ventes de leurs produits. Donc au final, voilà, tout le monde serait gagnant à moins gaspiller de nourriture de manière générale. Et nous, on n'est pas une soupe populaire, c'est ouvert à tout le monde, quels que soient les revenus, quel que soit l'âge, etc. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a des gens... On a eu l'occasion d'avoir des personnes qui sont venues à une disco-soupe, qui en avaient entendu parler en amont, et qui sont venues avec leur Tupperware pour qu'on leur remplisse. Évidemment, nous, ça nous fait plaisir si la personne, elle peut faire un repas gratuit ou deux grâce à nous.
En une soirée, combien de kilos de légumes vous débitez ?
La semaine dernière, on a distribué entre 400 et 500 kilos de fruits et légumes. Les trois quarts ont été cuisinés sous forme de soupe, de salade ou de compote. Et le dernier quart a été distribué sous forme naturelle, en fait, telle quelle. On a redistribué des pommes, des bananes. Les gens sont partis avec plusieurs kilos de fruits, de légumes, parfois un petit peu abîmés, parfois pas du tout. Et voilà. Et il y a eu à peu près 250 personnes ce soir-là.
with the music in your soul. You can make things hum with the zum 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 of the music in your soul.
La Disco Soupe au micro d'Edouard Marguier. Alors, la prochaine sera organisée le 25 mai au Parc de la Crapaudine à Nantes, qui laisse du temps de rentrer de la manifestation d'aujourd'hui de Notre-Dame-des-Landes. Alors, je vous l'avais dit aussi, une start-up, on reste dans le même domaine, avec Paul-Adrien Ménez, qui a 24 ans, étudiant à l'école d'ingénieurs d'informatique de Brest, et qui a créé, avec son frère et deux autres associés, une plateforme en ligne qui s'appelle Zéro Gâchis. Donc là aussi, initiative. John, la finalité de cette start-up, s'il vous plaît.
L'idée de Zéro Gâchis, c'est de réduire le gaspillage alimentaire, principalement dans les grandes surfaces. Ouais. On s'est rendu compte que les supermarchés appliquaient des démarques sur les produits qui étaient à 2-3 jours de leur date limite de consommation, mais que le seul moyen d'en profiter, c'était d'être au bon endroit au bon moment. Donc, c'est bien dommage, parce que les grandes surfaces qui travaillent avec nous ont déjà le fait d'appliquer des démarques. C'est une bonne position, c'est une bonne initiative. C'est dommage de ne pas aller plus loin. Et on a créé une plateforme sur Internet donc qui s'appelle zero-gâchis.com où les consommateurs se connectent et peuvent lister ces réductions et ainsi choisir dans quelle grande surface aller faire leurs courses pour profiter des démarques et pour éviter que ces produits-là ne soient jetés.
Alors vous êtes vraiment là au début. On va juste rappeler un chiffre extrêmement important. La grande distribution jette combien de denrées par an?
Alors c'est 750 000 tonnes de produits frais qui sont invendus. 750 000 tonnes, oui. Et simplement par les supermarchés. Un équivalent, c'est on prend une piscine olympique par exemple. On la multiplie par 200, et pour que l'exemple soit vraiment très, très flagrant, c'est 200 piscines olympiques pleines de poissons qui sont invendues chaque année.
Aujourd'hui, Paul-Adrien Ménez, donc vous avez commencé sur la région Bretagne. Donc l'idée, c'est de faire des petits, c'est d'avoir donc ces informations qui remonteront par la grande distribution.
Exactement, oui. On a démarré en Bretagne, à Brest, et parce que la grande distribution a démarré également en Bretagne. L'idée, c'est d'avoir testé en fait auprès de pilotes. Donc, on travaille avec un Leclerc, un Intermarché, un Système U, un Carrefour. Et l'idée, c'est de voir comment ça prend, si on arrive vraiment à réduire le gaspillage alimentaire. Ce qu'on arrive à faire, puisqu'on divise par deux le gaspillage alimentaire chez nos partenaires. Et là, maintenant, c'est de discuter avec les enseignes au niveau national qui nous ont contactés pour la plupart et pour étendre le service au niveau national.
Ce qui veut dire que à terme, on pourra regarder sur votre site et se dire, eh ben, là, il y a, mettons, 50-60% de réduction. Parce que ce sera périmé dans 3 ou 4 jours.
Exactement, on peut se connecter, là, il y a différents types de produits, il peut y avoir un paquet de yaourts à moins 50% parce qu'il est périmé dans 3 jours, ça peut être un filet de saumon qui est à moins 70% parce qu'il a consommé le jour même, il y a beaucoup de choix comme ça.
Alors derrière tout ça, évidemment, c'est aussi la précarité qui augmente de plus en plus.
Complètement, c'est vrai que, disons que le vouloir d'achat au niveau alimentaire a réduit, et pour autant, il faut consommer tous les jours, il faut manger tous les jours. Donc c'est vrai qu'on arrive à répondre à deux besoins, qui est celui de l'anti-gaspillage alimentaire et qui est celui du pouvoir d'achat.
Comment est venue cette idée ?
Alors c'était il y a une année, un peu plus, un an et demi. Moi j'étais étudiant, donc avec un budget d'alimentation très limité. Et quand je m'arrêtais dans ma grande surface, de temps en temps je tombais sur ce type de réduction-là, que j'achetais systématiquement puisque je fais mes courses un jour sur deux. Et en revanche, mon frère, lui, en rentrant des cours, il passait devant trois grandes surfaces et il s'arrêtait toujours dans celles qui ne faisaient pas de démarque. Et à partir de là, on a commencé à se passer le mot et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé par ce type de démarque parce qu'ils économisent de l'argent individuellement et puis parce que l'action globale de l'anti-gaspillage alimentaire les tenait à cœur. Et donc du coup, on a décidé de créer une plateforme pour que les grandes surfaces puissent nous alerter en fait les consommateurs lorsqu'ils ont des produits qui arrivent à date limite de consommation.
Qu'est-ce qui peut motiver une grande surface de travailler avec vous ?
Ils vendent des produits qu'ils ont achetés et qu'ils ne jettent plus, donc ils augmentent leurs chiffres. Et évidemment, quand on divise par deux le gaspillage alimentaire, c'est deux fois moins de stockage, deux fois moins de transport, deux fois moins de destruction de denrées périmées. Donc, ils augmentent également leur marge.
La suite de l'opération, Paul-Adrien Ménez.
Alors, on se rend compte que beaucoup de consommateurs nous envoient des mails pour nous dire dans telle grande surface, il y a des démarques, dans telle grande surface, il n'y en a pas. Donc, on développe, ça s'appelle le guide Zéro Gâchis, qui sera une application pour iPhone et qui permettra à n'importe qui de dire dans telle grande surface, il y a des démarques, dans telle grande surface, il n'y en a pas. Comme ça, au moins, même si on n'est pas présent physiquement dans le magasin, n'importe qui en France peut utiliser le service.
En général, quand on parle de gaspillage alimentaire, on cite le chiffre de 30%.
J'aime bien prendre l'exemple du cycle de vie de 10 bananes, par exemple. Donc, il faut savoir qu'il y en a à peu près 4 qui sont mangées par les bêtes dans le champ. Il y en a une qui est perdue parce que, de toute façon, elle n'aurait pas été vendue après. Donc, il la laisse directement dans le champ. Il y en a une qui se perd dans un caddie dans la grande surface. Et une autre qui n'est pas consommée par les consommateurs puisqu'elle est tout simplement gâchée. Elle est trop vieille, quoi. Donc, au final, sur 10 bananes, il y en a simplement 3 qui sont mangées par les hommes.
Les informations du site Zéro Gâchis sur le site de CO2, mon amour. Dans quelques instants, un volet initiative nature. Allez, allez, les tortues luttent, on se prépare en Guyane à parler dans le micro, oui. Oh, C'était Annie Elkatib sur France Inter en direct. CO2, mon amour.
Bon, les oiseaux, au lieu de chanter, les matous, au lieu de miauler, les cerfs, au lieu de bramer, vous feriez mieux d'écouter CO2, mon amour, avec Denis Chessou.
Mais les tortues luttes sont aussi tout à fait concernées. Ça nous fait un petit lien avec la semaine dernière quand on évoquait la Brenne. Alors là, c'était les petites tortues, c'était les cistudes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est dans la Brenne qu'on avait découvert ce qu'on appelle la thermosensibilité, ce qui veut dire que si la température d'incubation est de 28 degrés, je suis un mâle, à 29 degrés, je suis une femelle. Et oui, on l'avait découvert là-bas. Là, on va partir, on va faire pratiquement 10 000 km. On va en Guyane, sur la plage de Montjoly, à Cayenne. Et moi, je suis la plus grande des tortues marines, le plus gros reptile vivant sur Terre, avec le crocodile des mers. Bon, tortulute, je me nourris de méduses hein, et pas du tout de sac en plastique qui abrège ma vie, hein, qui peut aller jusqu'à 50 ans. Le champ magnétique pour me diriger est bien plus sûr qu'un GPS. J'aime bien les grands fonds et je vais à la plage, mais sans serviette de bain, pour pondre mes œufs. Alors je peux aller en Malaisie, en Australie. Et là, en Guyane où Stéphane Combe m'a rencontré, ainsi que Morgane Lescaut, qui est membre de l'association Quata pour la protection de la faune guyanaise, car c'est ma période de ponte, oui, de mai jusqu'à juillet-août.
On aperçoit en face de nous les quelques petits spots lumineux. On voit que ce sont des filtres rouges. Et donc ces éclairages rouges sont caractéristiques des personnes qui sont habituées à l'observation des tortues. Alors, c'est une tortulute.
Voilà, donc elle, à chaque fois, c'est toujours la nageoire à gauche, puis la droite, puis la gauche, puis la droite, successivement. Et elle va s'en servir comme d'une petite cuillère donc, pour enlever le sable qu'il y a au fond du nid.
C'est quand même une bête extrêmement imposante. Hein,
Assez, oui. 400 kg en moyenne pour 1,65 m. Et ce ne sont que les femelles que vous verrez là, les mâles sont au large et on ne les voit vraiment jamais. Et en général, ils font le double du poids de la femelle. Alors c'est vrai que là, on est sur une plage où c'est plutôt propice, étant donné qu'il n'y a pas trop de lumière autour des habitations. Donc effectivement, là, elle peut pondre sans être trop dérangée. C'est aussi le but de notre présence sur les plages, c'est d'expliquer un petit peu aux gens comment observer la tortue sans la déranger, par rapport aux lumières, par rapport aussi aux gens qui ont envie de la toucher. Il y a aussi des gens qui montent dessus.
Et donc elle est en train de pondre, là, non?
Alors, quand elle se met à cacher, voilà, comme elle fait là, effectivement, elle commence à pondre. Voilà, donc elle va cacher le nid et elle va y déposer à peu près une centaine d'œufs. Ils sont mous, ils sont pas durs.
Quel est leur avenir, ces œufs?
Il est assez incertain parce qu'en fait, on estime qu'il y a à peu près une tortue qui va atteindre l'âge adulte sur 1000. Donc si on compte les filets, le braconnage, les chiens et toutes nos activités, eh bien, c'est beaucoup moins. Il y en a à peu près, sur les 100, il y en a à peu près une soixantaine qui vont atteindre la mer. Mais par contre, une fois arrivé en mer, il y a énormément de prédateurs. Et voilà, il y a peu de chances, on va dire, que toutes arrivent à l'âge adulte. Il y en a très très peu qui atteignent l'âge adulte.
Est-ce qu'à l'association Quata, vous savez combien de tortulutes viennent régulièrement sur cette plage pondre des œufs à cette période de l'année, là, au mois de mai?
Alors là, par semaine, on est à peu près à 200 pontes. Et on a atteint les 1000 pontes depuis le début de la saison. Donc on va atteindre après, par la suite, par exemple pour la saison 2011, on était à peu près 5000 pontes. Et c'était une petite année. Le problème, c'est qu'après, c'est des espèces qui migrent. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les océans, dans d'autres pays. Il y a beaucoup d'impact lié à la pêche. Et il se peut que cet adulte-là qui est en train de pondre ici en Guyane, eh bien, dans quelques mois... on la retrouve échouée ailleurs parce qu'il y a eu une marée noire, parce qu'il y avait des filets, parce que voilà. Tout ça, c'est assez. Leur avenir est quand même encore incertain. Hein. C'est pas parce qu'on en voit beaucoup en Guyane qu'on peut dire qu'elles ne sont plus menacées. Après, ça n'empêche pas que les tortues qu'on voit en Guyane, on les retrouve par exemple au large de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les eaux froides du Canada. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas venir pondre tous les ans, elles viennent tous les 2-3 ans. Parce que là, elles puisent dans leur réserve pour venir juste. Ils ne peuvent pas faire ça tous les ans.
Ça va arriver.
Donc ça y est, elle commence à recouvrir.
elle va recouvrir un petit peu et d'un seul coup vous allez voir, elle va écarter, mais attention, vous avez deux chances, hein. Après ils sont sous le sable.
Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là?
Elle va commencer à recouvrir le nid.
Avec du sable. Hein.
Voilà. Et vous allez voir avec la délicatesse avec laquelle donc cet animal de 400 kg recouvre ses œufs. C'est assez impressionnant. Elle fait tout doucement.
Voilà. Attention, vous avez une deuxième chance. Tu vas bien reboucher le nid. Une fois qu'elle aura fini de tasser, elle va balayer puis cacher son nid.
Alors dans combien de temps ces petits œufs vont éclore?
Dans 60 jours.
Ils vont sortir du sable, parce que là ils sont quand même à environ
80 cm. Et donc elles vont remonter, ça va leur prendre quand même plusieurs jours pour arriver à remonter à la surface. Et après elles vont rester vraiment tout près de la surface avant et elles vont attendre la chute des températures avant de sortir. Donc en général ça se passe en fin d'après-midi et début de soirée. Qui atteindront la mer, il y en a à peu près une soixantaine sur les 100.
C'est quand même une majorité.
Oui. Alors après, la majorité, malheureusement, elle ne le sera plus une fois arrivée à l'eau. Là, encore moins de chances pour qu'elles atteignent l'âge adulte, vu leur taille. Elles sont tellement petites que c'est vraiment des proies faciles. Bien évidemment, on constate quand même des améliorations, ne serait-ce que dans le comportement des gens. Vous voyez là, les gens sont assez respectueux, ils restent derrière. On utilise des lumières rouges. On évite les flashs pendant les phases de déplacement de l'animal. Et aussi par rapport aux chiens, notamment, il y a un gros travail de la fourrière qui depuis des années, donc passe sur les plages et récupère les chiens errants, qui n'hésitent pas donc à piller les nids.
Elle est retournée à la mer, ça a été assez rapide entre le moment où elle a quitté la plage, la zone de sable et le moment où elle retrouve la mer.
Oui, une fois qu'elle a terminé de balayer, elle va se diriger assez rapidement vers l'eau. Alors après, vous voyez, elle ne va pas toujours en ligne droite directement vers la mer, elle peut un petit peu faire des ronds avant d'y arriver. C'est pour ça qu'on incite les gens à attendre pour les flashs. Mais maintenant, elle est bien dans l'eau, vous pouvez la prendre en photo, toujours à l'arrière, pour ne pas la déranger. Et puis là, elle va retrouver son élément, enfin. Une dizaine de jours, elle sera de retour pour pondre à nouveau.
Là, elle est à l'aise, parce que sur le sable,
elle retrouve son élément, elle va pouvoir se reposer, se nourrir. On voit le dos. Et puis donc là, elle va prendre une dernière inspiration. Elle va remonter à la surface avant de replonger. Et là, elle va détaler assez vite.
Il y a des vagues.
Oui.
Et ça ne dérange pas.
Non. Ah bon, non. Non, elle connaît ça. Elle connaît ça bien. Elle a des très longues nageoires qui lui permettent d'atteindre une vitesse assez impressionnante.
Morgane Lescaut de l'association donc Quata, Laurent Kell du WWF et le reportage était signé Stéphane Combe. C'était donc notre page nature qui nous a permis de prendre le pouls un peu de cette planète à pas loin de 10 000 km. Et maintenant, on va voir aussi notre page entreprise et monde végétal. La nouvelle chimie à partir du végétal. On en a déjà parlé depuis pas mal d'années. Ça commence à monter en puissance. Et on va rencontrer Marc Delcourt qui a créé Global Energy. Que faites-vous avec cette entreprise?
Un peu d'histoire d'abord, c'est le Global Bioénergie donc intervient dans le domaine de la biologie industrielle. La biologie industrielle, c'est un domaine d'activité récent. Il s'agit de convertir les ressources renouvelables, le sucre, les céréales, les déchets agricoles et forestiers, de convertir donc toutes ces ressources renouvelables en produits chimiques.
Donc vous partez sur des déchets, c'est ça?
Alors on part sur toutes les ressources renouvelables accessibles. Aujourd'hui, donc c'est le sucre et les déchets de l'industrie sucrière qui sont la mélasse, c'est les céréales, et puis les déchets agricoles et forestiers, c'est une ressource qui est en train de devenir disponible. C'est une ressource qui contient plein de sucre, mais ces sucres sont présents sous une forme qui est difficilement accessible, c'est la cellulose en fait. La cellulose, c'est la touffe de coton, et on voit bien qu'avant de transformer de la cellulose en sirop de sucre, il va falloir un procédé qui soit efficace. Et donc ces procédés donc de détricotage de la cellulose pour aboutir à un sirop de glucose qui sont en train d'être industrialisés par d'autres, alors pas par nous, mais par d'autres acteurs du domaine de la biologie industrielle. Et nous, on se situe en aval. On se situe sur le segment de la conversion de ce sucre, quelle que soit sa provenance, en produits chimiques pour faire des matériaux et pour faire des carburants.
Alors qu'est-ce que l'on fait après avec cela? Donc vous me dites bien à la fois carburant, mais aussi matériaux. On peut retrouver ensuite ces molécules que vous sortez dans l'industrie du plastique?
Alors voilà, la spécificité de Global Bioenergy, c'est de cibler les grandes molécules de la pétrochimie. Donc ces molécules, c'est une famille qui s'appelle les oléfines légères. Alors, c'est un nom barbare qui n'est pas connu du grand public, mais les molécules elles-mêmes sont connues. L'éthylène, dont on fait le polyéthylène, qui est le plastique d'emballage le plus courant. Le propylène, dont on fait le plastique des voitures, le polypropylène. Et puis quelques autres molécules, dont on fait les pneus, le plexiglas. Donc toutes ces molécules sont vraiment le cœur de la pétrochimie. Et le positionnement de Global Bioenergy, c'est de transformer les ressources végétales en ces molécules.
Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de s'affranchir du pétrole grâce au végétal.
Exactement. On est en train de réécrire une nouvelle chimie à partir du végétal. Mais ce n'est pas une chimie qui est complètement nouvelle, complètement différente. Certains autres acteurs du domaine plaident pour ça, repartir d'une page blanche. Mais nous, on plaide pour répliquer la chimie qui est issue du pétrole à partir de ressources végétales. Et pourquoi? C'est parce que c'est beaucoup plus facile. Si vous faites les mêmes molécules, vous avez déjà toutes les infrastructures de stockage, de distribution, de transformation de ces molécules. Tout est déjà en place. Vous faites ce que nos amis américains appellent des produits drop-in. Donc il suffit de les verser dans une industrie déjà existante et vous n'avez pas comme ça à recréer le monde de zéro. Nous, on est vraiment dans cette philosophie.
Marc Delcourt, quel est le bilan environnemental?
Alors le bilan environnemental pour tous les bioprocédés est bien meilleur que le bilan environnemental associé au pétrole. Il faut bien voir que le pétrole, c'est un voyage à sens unique. On prend du pétrole dans le sous-sol, on l'utilise, ça se termine toujours par de la combustion. Alors tout de suite quand il s'agit de carburant et plus tard quand il s'agit de plastique, mais à la fin c'est dans une décharge et c'est brûlé. Et ça se termine sous forme de CO2 dans l'atmosphère, donc du sous-sol vers l'atmosphère en passant par les divers objets manipulés par l'homme. Dans le cas des bioprocédés, c'est un cycle. On a des plantes qui fixent du CO2 pour croître. Ces plantes sont utilisées pour fabriquer les matériaux et les carburants. C'est la combustion de ces matériaux produit du CO2 qui est à nouveau utilisé par les plantes pour être capté. Si ce cycle était parfait, le bilan environnemental serait parfait. On aurait zéro émission de CO2. Rien n'est parfait dans ce bas monde, il faut des tracteurs pour faire de l'agriculture, il faut des engrais, il faut à différentes étapes de l'énergie. Et donc on se retrouve avec un bilan environnemental qui n'est pas parfait, mais qui est d'une façon générale 50 à 80% réduit par rapport aux émissions de CO2 dans le cas du pétrole.
Est-ce que ce procédé est consommateur de terres cultivables ou bien simplement vous récupérez les déchets?
Alors vous m'emmenez là sur le grand débat de la biologie industrielle. Est-ce qu'on va affamer la planète? Alors c'est un débat qui a suscité beaucoup de passion et qui doit pourtant être analysé à tête reposée. Si on parle des matériaux, on parle de petits volumes. Les matériaux, c'est les plastiques pour les voitures. On a calculé que si tous les plastiques pour les voitures, c'est environ 10% du poids des voitures, tous ces plastiques étaient faits à partir de produits agricoles, donc de toutes les voitures construites dans le monde chaque année, on aurait besoin de 2% des terres cultivables. 2%, c'est déjà la surface qu'on consacre à la culture du coton. Il y a déjà une agriculture des matériaux. Il y a le coton, il y a les EVA, il y a le lin, le chanvre, il y a déjà donc cette agriculture des matériaux, et ce n'est donc là que la continuité dans des volumes comparables et d'une façon qui est technologiquement différente, mais philosophiquement en ligne. En revanche, si on s'intéresse aux carburants, si on veut remplacer aujourd'hui tous les carburants par des biocarburants, il faut plusieurs agricultures mondiales.
Eh oui.
Donc, l'équation ne tient pas. Et alors, comment fait-on? L'essor des biocarburants viendra très certainement de la valorisation des déchets dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'utilisation non pas de ressources alimentaires, mais de ressources dont on ne fait pas grand-chose aujourd'hui. Il y a quand même un bémol, c'est qu'aujourd'hui, la FAO, donc Food and Agriculture Organization, dit qu'on gaspille 40% de nos ressources. Donc, première chose, faisons un petit peu attention à ce qu'on fait avec les ressources alimentaires avant de faire des esclandres sur qu'est-ce qu'on pourrait en faire plus tard.
Marc Delcourt, est-ce que là, nous sommes dans un véritable développement économique? Est-ce qu'on le voit un peu partout, ça fleurir dans le monde?
Oui et non. Le XXe siècle a été l'objet de très nombreuses découvertes scientifiques dans ce domaine, mais le véritable point de départ de la biologie industrielle, c'est 2000. Avant ça, en fait, le pétrole était trop bas. prix du pétrole était trop bas et écrasait toute concurrence. Donc c'est un domaine qui est extrêmement récent, qui a 10 ans. Et donc dire qu'on voit fleurir partout des bioprocédés, non, c'est pas vrai. On est encore au temps des pionniers. La première décennie du 21e siècle, c'est le temps des pionniers. Nous, aujourd'hui, c'est une industrie qui commence à se consolider, qui commence à vraiment délivrer. Mais on n'est pas encore dans le... C'est pas encore l'informatique. Il y a quelques milliers, peut-être, quelques milliers de salariés dans cette industrie à l'échelle mondiale. Et nul doute que dans 10 ans, ce chiffre sera décuplé.
Page innovation économique avec Marc Delcourt, donc, qui a créé Global Bioenergy pour essayer de construire un monde un petit peu différent demain. Cela, vous les connaissez.
Alors, c'est quoi que j'appelle?
Alors c'est quoi? Eh bien c'est votre magazine de nature et d'environnement sur France Inter, Saut de mon amour, qui vous accompagne peut-être en voiture, on vous souhaite une excellente route. Tenez, on aime bien aussi.
Moi, j'aime me lever tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre, et l'embrasser.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Notre page internationale à présent, nous sommes à Singapour, 710 km², plus de 5 millions d'habitants.
Notre système se veut une solution urbaine, c'est propre, sûr et très important, c'est facile à implanter, c'est comme des Lego, vous les démontez facilement, assemblez facilement et en même temps, c'est proche du consommateur.
Jack Hong est le fondateur de la ferme Sky Green, la première ferme au monde à utiliser des végétaux de l'agriculture verticale. Et donc ça permet de gagner de la place, de l'eau, de l'énergie, c'est quand même le deuxième pays le plus dense du monde, on l'a bien compris. Et ce reportage est signé Karine Newton et Diane Schlinger.
Planter dans les airs des laitues et des légumes verts typiques d'Asie comme les kailan ou les tsaïtsin, le patron de la ferme Sky Green le fait depuis 6 mois. Il a conçu ce modèle d'agriculture verticale pour répondre aux défis posés par Singapour. Au lieu de s'étaler en largeur, les plants sont disposés sur 38 étages par tour et montent et descendent grâce à un système de poulie hydraulique. La poulie utilise astucieusement la même eau que celle dans laquelle baignent les plants de légumes. Il n'y a besoin que d'un demi-litre d'eau pour actionner la structure d'une tonne 7. Les cultures font ainsi jusqu'à 4 rotations par jour. Jack Hong.
Vous voyez, elles sont en forme de A. Cela permet que chaque plant puisse profiter de la lumière. Si c'était tout droit, les étages du dessous ne seraient jamais ensoleillés. En même temps, il faut que la tour fasse une rotation, car quand ils montent, ils peuvent avoir un meilleur ensoleillement, mais ils doivent redescendre, car ils ont besoin de se reposer. Et puis une fois en bas, ils peuvent baigner dans la solution nutritive, puis remonter à nouveau.
Sky Green permet ainsi d'économiser 75% en ressources et en main-d'œuvre. L'obstacle principal de cette culture pleine de promesses, le coût. Chaque tour coûte 9 500 euros, un investissement trop lourd pour que les agriculteurs se reconvertissent en masse, même dans la prospère Singapour. Pourtant, côté client, on est demandeur de plus de légumes estampillés Sky Green. Tung Ai Am est le responsable des achats à Fairprice, la principale chaîne de supermarchés de l'île et le client de Sky Green.
Nous travaillons en étroite collaboration avec Sky Green, de sorte qu'il sache de quelle quantité de légumes nous avons besoin quotidiennement. L'agriculteur peut planifier sa production selon notre demande. On a moins de gaspillage pour l'agriculteur et donc moins de gaspillage pour nous. Donc c'est une bonne chose car cela améliore la productivité.
Ça plaît d'autant plus en Asie qu'on est de plus en plus sensible aux conditions de production obnubilées par la pollution chinoise. Megan, une cliente qui glisse dans son panier un produit estampillé Sky Green.
Ce kaisin, c'est issu de l'agriculture verticale à Singapour. C'est bon. Ce qui est encore mieux, c'est quand il y a des escargots et des vers à l'intérieur. Il n'y a pas de pesticides, enfin moins de pesticides. Et la présence des vers montre que c'est plus sain. C'est singapourien. Les légumes malais et chinois, je n'aime vraiment pas en manger. Ils ne font pas de contrôle. Alors que ça, c'est frais, c'est très frais. Cela a peut-être été impacté aujourd'hui. Ce qui est local, c'est meilleur, n'est-ce pas?
Les quelques 120 tours d'aluminium de 9 mètres de haut devraient être rejointes par 3000 autres d'ici quelques mois, ce qui portera la production à 2 tonnes de végétaux par jour. Jusque-là, seuls 7% des légumes consommés ici étaient produits sur place. L'agriculture verticale permettra de faire monter ce ratio à 10% l'an prochain.
Merci à vous, Karine Houghton. Et puis merci à nos amis du 6h-7h, de la matinale de France Inter, à savoir Éric Delvaux et Yves Decan. C'était donc notre page étranger. Et on va revenir en France avec Cyril Dion, qui est directeur de Colibri. Alors le Colibri, on le connaît parce que ça a été donc cette très belle histoire racontée par Pierre Rabhi, donc avec cette revue aussi on va reboucler un peu les choses en essayant de planter des légumes en ville parce que récemment, Cyril Dion, 63 villes ont bougé sur ce thème, planter des légumes en ville, racontez-nous.
Bonjour Denis. On a organisé un grand mouvement en partenariat avec une association qui s'appelle Les Incroyables Comestibles et des gens se sont mobilisés pour planter des légumes dans des bacs en pleine ville.
Alors rappelez-nous quand même Les Incroyables Comestibles, on avait reçu donc le responsable à l'époque ici dans cette émission, mais l'idée c'est quoi?
En fait, c'est parti d'une ville qui s'appelle Todmorden, qui est à Manchester, qui a 14 000 habitants, et où deux femmes ont eu l'idée de proposer aux habitants, pour les sensibiliser au fait qu'il fallait relocaliser l'agriculture et aller vers une agriculture plus biologique, de planter comme ça des légumes dans des bacs. Ça a eu tellement de succès qu'en 3 ans, aujourd'hui, 82% de ces 14 000 habitants se fournissent localement pour leur alimentation. Ils ont recréé des filières entières entre des paysans, des cantines scolaires, des restaurateurs, des magasins. Les enfants ont planté dans leurs écoles, ils ont planté dans les jardins de l'hôpital. Ils ont planté de l'ordre de 200 fruitiers dans l'ensemble de leur ville. Ils ont créé un espace où ils forment les gens pour leur réapprendre à jardiner. Et en France, ce sont deux colibris, en fait, François Rouillet et Jean-Michel Herbillon, qui sont en Alsace, qui ont voulu le reproduire. Et aujourd'hui, il y a plus de 120 villes qui se sont mis à rejoindre ce mouvement.
Alors ça veut dire qu'il faut donc des espaces qui sont dédiés à cela. Donc on fait ça avec quoi? L'accord du maire? Ce sont les citoyens qui viennent un peu voir leurs élus? Comment fonctionne?
Alors tout dépend. Là, ce qui était rigolo justement dans l'histoire de François, c'est qu'il a commencé à vouloir le faire à la française, c'est-à-dire qu'il est allé voir la mairie en leur disant « je voudrais faire des bacs avec des légumes ». La mairie a dit bon, « ça ne nous intéresse pas ». Il est allé voir les entreprises du coin, ça ne les intéressait pas. Et il s'est dit « je vais le faire à l'anglaise, je vais mettre tout simplement un bac devant ma porte ». Ce qu'il a fait, et son voisin l'a vu et lui a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis en train de mettre des légumes, c'est de la nourriture à partager, c'est pour sensibiliser les gens au fait qu'on a besoin de se réapproprier notre autonomie alimentaire. » Il s'est dit « mais c'est génial, je vais faire pareil, moi aussi je vais faire des bacs. » Le troisième voisin a vu ça, « qu'est-ce que vous faites les gars? On fait des bacs avec des légumes. »« Oh c'est super, moi aussi je vais le faire. » Et ça s'est répandu comme ça. Et donc là, depuis, l'idée pour démarrer est de faire la même chose. Donc de pouvoir commencer par planter dans des petits bacs qui peuvent être amovibles, de se prendre en photo devant la pancarte de sa ville et ensuite de l'envoyer sur le site des Incroyables Comestibles ou sur le site de Colibri. Et ensuite, effectivement, de pouvoir négocier avec sa mairie d'avoir des espaces pérennes. Et là, par exemple, nous à Paris, on est en train de négocier pour avoir des espaces, certainement sur la place de la mairie du 4e, sur la place de l'hôtel de ville et peut-être à d'autres endroits, qu'on recrée des paysages comestibles finalement dans nos espaces urbains.
Vous savez que nous sommes en France, donc on va vous dire oui, mais alors c'est fait pour être volé. Voilà,
voilà, c'est a priori le premier truc qu'on entend fois. Le vandalisme. Et enfin, ce qui est rigolo, c'est que l'exemple anglais montrait que plus la communauté était impliquée en Angleterre, ce qui est rigolo à Todmorden, c'est qu'il y a la police qui a planté. Donc le chef de la police a fait son petit bac devant le commissariat. Plus la communauté est impliquée de façon large, et moins il y a de vandalisme. Alors évidemment, ça peut arriver dans un premier temps. Mais l'idée, c'est que les groupes qui plantent dans les bacs s'en occupent aussi de façon durable. À plus moyen terme, que l'ensemble des habitants d'une petite zone dans laquelle il y a des légumes soient sensibilisés à ça, qu'ils aient envie de prendre soin de ces petits pots partagés.
Alors en fait, Cyril Lyon, pourquoi c'est important? Parce qu'on peut se dire que ce sont des petites initiatives. Mmh. On est quand même dans une période de mutation qui est très intéressante.
Ce fait de planter des petites graines dans des bacs qui vont faire pousser des légumes au milieu de la ville, ça paraît extrêmement anodin. Mais c'est un premier pas, en fait, qui permet, comme on l'a vu dans l'exemple de Todmorden, de pouvoir provoquer des mutations sur le territoire qui sont beaucoup plus larges. À Todmorden, la nourriture qui est produite et consommée par les habitants, les bacs ne représentent que 10%, donc c'est très faible. C'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs, mais c'est pas beaucoup. Ça a vraiment eu une vertu extrêmement pédagogique pour que les gens prennent conscience à quel point, et c'était notamment très vrai en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils produisent 44% de la nourriture qu'ils consomment, donc ce qui est très peu. Donc ils sont d'autant plus sensibilisés à cette question-là. Ceci dit, en Ile-de-France, on produit 10% de ce qu'on consomme, alors qu'on est 12 millions d'habitants. Donc c'est aussi une nécessité sur un territoire qui est à 50% agricole de se dire, mais pétard, si demain les camions ne continuent pas à nous alimenter, comment est-ce qu'on va produire notre nourriture? Ça a une vertu pédagogique formidable, à la fois pour les gens et pour les enfants. Samedi, on était avec tout un tas de gens à Paris, autour du cabaret sauvage, en train de partager à la fois des plants et des graines. 90% des gens ne savaient pas reconnaître une tomate, d'une fraise, d'une laitue.
Quand même, si, non?
Non, vraiment. Et donc, on s'est rendu compte, même dans notre petite équipe, là, de Colibri, hein, qui sont assez urbains et qui étaient un peu désarçonnés de temps en temps, c'est quoi ça? Ah, bah ça, c'est. Ah, je vais aller demander. Et ça a une vraie vertu, ça. On sait plus ce que sont les plantes. Et c'est un vrai problème.
Voilà, émission initiative pour ouvrir les portes de demain. 20 réchauffements climatiques, le disco souple, zéro gâchis, nos tortues de Guyane qui pondent, Global Energy, le Singapour, et puis Cyril Lyon qui donne aussi pas mal envie. Planter donc des légumes en ville. Merci à Philippe Duclos, à Clément Vuillet à la technique aujourd'hui, à Stéphane Combe et Thomas Jost qui réalisait cette émission. Je n'oublierai pas Albert Houck du Maine-et-Loire, Anne Gouzon. La semaine prochaine, on va parler sans doute solaire. On est en train de monter un petit peu l'émission autour du solaire. Le podcast, c'est à votre disposition, franceinter.fr sur le site CO2 Mon Amour. Et bien vous pouvez converser entre vous, hein. Vous pouvez déposer vos messages, vous converser, vous renvoyez la balle, c'est fait pour. Demain à dimanche 15h, ce sera Vivre avec les bêtes, là aussi on parle de nature avec un abou Grain-du-Bourg. Et puis l'Atu du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Je vous souhaite un excellent week-end, que vous rentriez ou non, profitez-en et on se retrouve la semaine prochaine.